J'ai rencontré Nathanaël en visio l'an dernier, à un jury de recrutement concours chercheur au CNRS. Et je suis tombée par terre en voyant qu'il avait fait sa thèse sur, alors tu me corriges de mémoire, mais sur le punk en Chine, avec un article notamment remarqué sur les punks chinois et la bière, dont mes collègues ont beaucoup rigolé, mais moi je trouvais que c'était plutôt un sujet sérieux. Et donc cette année, c'est vraiment naturellement que je l'ai contacté parce que ben voilà, ce que tu fais, ça correspond à beaucoup de questions qu'on se pose sur des territoires qu'on maîtrise pas du tout. Et en plus, donc tu parles parfaitement français. Enfin voilà, c'est facile de. Donc voilà, on est très 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 content de t'accueillir. J'espère que on va t'accueillir aussi dans notre équipe, comme on dit à la télé. Et voilà, donc ben après je te laisse te présenter, hein, mais merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler.
Donc merci à tous, mais merci à vous de m'avoir invité, merci au PIN, merci à Solveig, voilà, je suis très content d'être ici, et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui concerne la création du punk en Chine populaire, en République populaire de Chine, et donc que j'ai intitulé Pirate Tapes and Kurt Cobain, Inventing Punk Music in 90s China. Donc en fait, c'est sur l'invention du punk en Chine à travers des cassettes pirates et Kurt Cobain. Pourquoi cassettes pirates et Kurt Cobain? C'est tout le sujet de ma présentation aujourd'hui. Parce qu'au milieu des années 90, à peu près au même moment, une scène punk a émergé en Chine, à la fois à Pékin et à Wuhan, donc qui sont deux villes distantes de 1000 km. Donc j'ai plus besoin aujourd'hui d'expliquer où se trouve Wuhan. Et en tout cas, voilà, c'est deux villes qui sont très différentes historiquement, sociologiquement et aussi culturellement. Sont distantes de 1000 km. Et en même moment, vous avez une scène punk qui se crée dans ces deux villes-là, à peu près au même moment, au milieu des années 90, sans qu'on puisse dire très clairement qui a commencé. Et en fait, dans la littérature, que ce soit académique ou de témoignages qui existent sur la scène punk en Chine, on a une insistance sur Pékin et sur quelques individus, en fait. On met beaucoup l'accent sur le punk pékinois et pas assez sur les punks qui viennent d'autres endroits, et particulièrement voilà, sur quelques individus qui seraient à l'origine de cette scène punk. Et en fait, moi, ce que j'aimerais montrer, parce qu'en fait, j'avais cette même impression quand je suis arrivé sur mon terrain chinois, je pensais que voilà, Pékin, c'était le site de l'invention du punk, qui avait une certaine forme d'authenticité à cause du rock qui s'est créé dans les années 80 et qui avait une filiation naturelle entre le rock chinois des années 80 et le punk pékinois des années 90. En fait, ces préconceptions, elles ont été complètement mises en branle pendant mon terrain et à travers les entretiens que j'ai eus avec les groupes de punk en essayant de retracer un peu l'histoire de ce mouvement. Du coup, moi, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est une autre histoire un peu plus complexe qui met en évidence des connexions qui sont pas forcément celles qu'on attendrait et qui est avec en fait des cassettes pirates de pop stars hongkongaises et taïwanaises. Avec des CD cassés, on va en parler, et aussi à travers le suicide de Kurt Cobain. Donc, comment est-ce que tous ces éléments se sont associés pour former finalement un punk chinois dans les années 90? Donc, en fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les années 90, il faut qu'on regarde ce qui s'est passé dans les années 80 avec la naissance du rock chinois, avant d'examiner en fait les changements sociaux la scène culturelle des années 90 et qui ont permis le punk chinois d'exister. Donc en fait le rock chinois à la base il arrive à la fin des années 70, au début des années 80 avec la fin de la révolution culturelle, donc qui termine en 76 avec la mort de Mao et l'arrestation de la bande des quatre, la vraie bande des quatre, pas le groupe de post-punk, bien sûr. Et juste après, la Chine s'est progressivement ouverte aux investissements étrangers et à la culture étrangère, très très progressivement, ça s'est pas fait d'un coup. Et on a une espèce de société civile bourgeonnante qui apparaît à ce moment-là, des mouvements indépendants artistiques et des collectifs d'artistes, de culturels qui se forment au début des années 80. La pop musique, qui a été considérée comme contre-révolutionnaire à l'époque maoïste, arrive en Chine à travers l'importation de cassettes pirates, principalement de pop stars taïwanaises ou hongkongaises, qui ont une scène pop très vibrante à ces années-là. On a par exemple la star pop d'Anglitune, donc que vous voyez ici, donc qui est une star taïwanaise, qui est une des plus grandes stars de la pop taïwanaise de l'époque et qui continue d'être une des plus grandes stars aujourd'hui. Elle est, si vous voulez, la bande-son de ces années-là, de la fin des années 70, début des années 80, des réformes économiques et d'ouverture, avec son arrivée massive à travers des cassettes piratées. Parce qu'elle n'a pas le droit, en fait, officiellement de circuler à travers ces cassettes, mais elle circule, en fait, à partir de Hong Kong, à travers des cassettes pirates, et en fait, tout le monde commence à écouter du Bang Litune. Bien que ces chansons sont officiellement bannies. Il y a un dicton qui est très populaire à la fin des années 70 qui dit « Le vieux Dang gouverne le jour et la jeune Dang gouverne la nuit ». C'est-à-dire que Deng Xiaoping, l'architecte des réformes économiques et la personne qui contrôle un peu la vie politique chinoise, gouverne le jour, c'est lui qui gouverne la Chine, mais la nuit, c'est petite Dang, donc Dang Litune, Teresa Tang aussi on l'appelle, qui en fait gouverne la vie nocturne des jeunes Chinois de l'époque. Donc ça montre un peu l'impact de Dang Litune et de la pop taïwanaise en Chine à cette époque-là. Dang Litune, c'est aussi une voix qui est utilisée par le parti nationaliste chinois qui est réfugié à Taïwan depuis 49. C'est une voix qui est projetée depuis Taïwan, depuis l'île de Kinmen, qui est en face du Fujian, donc de la Chine, à travers en fait ces haut-parleurs géants. Donc vous voyez en fait sur l'image un haut-parleur géant de Beishan. Donc c'est le plus grand haut-parleur à l'époque du monde qui pouvait projeter du son sur le continent chinois. Et en fait, il passe très souvent des chansons de Dang Litune sur le continent chinois et des messages de Dang Litune, donc Teresa Tang, qui appelle ses compatriotes chinois du continent à accélérer les réformes démocratiques et revenir dans la mère patrie. Donc en fait, donc voilà cette Dang Litune, elle arrive à ces années-là et elle a une profonde influence sur la scène culturelle de l'époque. Aussi dans les années 80, début des années 80, on a l'arrivée de cassettes pirates de rock'n'roll occidentaux dans certains milieux plus aisés ou plus cultivés de la capitale. On a le premier groupe de rock qui s'appelle Wan Lee Ma Wang, qui est créé en 1979, qui est composé d'étudiants de la Beijing Foreign Language Institute, donc c'est un institut de langue étrangère de Pékin, et qui reprend en fait des classiques des Beatles et des Bee Gees. À cette époque-là, donc on a également d'autres groupes qui se forment, comme le Peking All Stars ou le Dalu Yedwe, donc le groupe du continent, qui sont des groupes composés d'occidentaux qui donnent des concerts dans des hôtels internationaux. Parce qu'à l'époque, les hôtels internationaux, donc qui sont à capitaux étrangers, sont moins surveillés que les autres bars ou les autres hôtels. Donc en fait, les groupes de rock peuvent y performer. On a également des groupes étrangers qui arrivent également en Chine pour des tournées. Donc la fameuse tournée de Jean-Michel Jarre en 1981 à Pékin et Canton, je crois aussi à Shanghai, devant en fait une audience un peu sceptique qui n'a pas vraiment l'habitude de ce genre de musique. En tout cas, Jean-Michel Jarre arrive en 81, il fait sa tournée et il reviendra d'ailleurs 20 ans plus tard. Ensuite, on a d'autres groupes, dont Wham, qui arrivent en 85. Et là, c'est autre chose que Jean-Michel Jarre. C'est-à-dire, en 85, les gens ont eu l'occasion d'écouter du Wham à travers les cassettes pirates. Et là, ils performent devant une audience assez fascinée par Wham. On a aussi un autre groupe, qui est le premier groupe américain, qui s'appelle Jen and Dean, qui est un groupe de surf rock américain qui arrive à Shanghai. pour faire une tournée. Et il y a d'ailleurs une altercation à l'intérieur du lieu de concert qui incite des étudiants shanghaïens à faire la première manifestation shanghaïenne étudiante de l'année 86. Bref, on a donc ces influences étrangères qui arrivent, les influences de Taïwan et de Hong Kong, et une scène rock qui arrive à prendre place dans les années 80. Une multitude de groupes rock se créent dans les années 80. On a Tui Tien, qui est considéré comme le plus grand rocker chinois, qui forme son groupe ado dans les années 80 et qui va être le premier chanteur rock à chanter une chanson rock à la télévision nationale en 86, quand il participe à une espèce de concert de charité qui se déroule dans le Stade des Travailleurs. Donc il est filmé, il chante la première chanson rock qui s'appelle Yu Suyo, qui veut dire à peu près je n'ai rien. Et qui devient en fait l'hymne de la jeunesse étudiante de l'époque. Et d'ailleurs, cette chanson va être reprise dans les années en 89 par les étudiants mobilisés lors des manifestations démocratiques de Tiananmen. Et donc, on va avoir en fait ce lien entre rocker et mouvement démocratique étudiant en 89. Donc, Tsui Tien va venir apporter son soutien aux étudiants sur la place Tiananmen. On a un autre rocker taïwanais, celui-là, qui s'appelle Ho Detian, qui est sur la place Tiananmen avec les étudiants. Jusqu'au bout, il sera sur la place Tiananmen. On a d'autres rockers aussi qui viennent sur la place pour chanter avec les étudiants. Donc, c'est pas une surprise si, après la répression du mouvement étudiant de 89, le rock est aussi réprimé au même moment. C'est-à-dire que son implication dans le mouvement étudiant et démocratique va être sévèrement réprimée par le gouvernement à cette époque-là. Les rockers n'ont plus le droit de se rendre en public, en fait, devant un public pour chanter. Par exemple, Tsui Tien, il n'a plus le droit de faire des concerts à Pékin. Dans d'autres villes, il a le droit, mais à Pékin, il n'a pas le droit de donner des concerts devant un large public. Donc, il se réfugie un peu dans l'underground naissant. Donc, il va chanter, par exemple, dans des cafés ou dans des bars qui sont prévus à cet effet, donc qui sont ouverts par les gens du milieu rock. Ou bien il va aussi chanter dans des ambassades. Donc il va chanter assez souvent dans l'ambassade de France à Pékin à cette époque-là. Donc on a en fait un refuge du rock'n'roll à l'intérieur de l'underground, alors qu'il était en train d'être de plus en plus mainstream en fait avec sa popularisation. Et en fait, beaucoup d'auteurs vont dire que le rock est en pleine crise à ce moment-là, quand on a une crise du rock à cause voilà, de ce retour vers l'underground et l'arrivée en fait en masse de chansons et d'albums pop qui viennent de Hong Kong et de Taïwan encore une fois. Donc on va avoir voilà une dichotomie très clairement faite par les auteurs dans la littérature scientifique sur le rock et le punk chinois entre d'un côté la pop qui est censé être commercial et approuvé par les autorités, parce que ça va venir encourager les réformes économiques, et un rock qui serait plus authentique et plus subversif, et avec une barrière complètement séparable. Moi, mon idée, c'est de montrer que cette frontière, elle n'est pas si infranchissable que ça, et assez poreuse, et que finalement, l'arrivée de la pop à cette époque-là, dans les années 90, va permettre aussi l'avènement d'une scène punk, ce qui est assez contre-intuitif, mais restez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, ce discours sur le punk chinois des années 90 a été dominé voilà par une approche centré sur Pékin et centré sur quelques individus, notamment par exemple David O'Deal, donc qui est un étudiant texan qui arrive dans les années 90 à Pékin et qui va rencontrer la scène punk locale. Et en fait, il a écrit ses mémoires qui s'appellent Inseparable: The Memoirs of an American and the Story of Chinese Punk Rock, qui est vraiment centré autour de sa personne et autour de sa rencontre avec ce qui va devenir le milieu punk pékinois, et notamment avec un groupe qui s'appelle Under Baby, donc DCINger, qui est censé être le premier groupe de punk chinois. Et en fait, il va se donner un peu le rôle de celui qui va faire découvrir aux jeunes Chinois le punk underground de la côte est américaine, parce qu'il arrive avec des cassettes, il va les prêter à ses amis à Pékin, et ils vont le copier et ils vont jouer ces chansons-là. Et donc, en fait, il dit en gros que c'est lui qui apporte un peu cette nouvelle culture avec ses cassettes qu'il a avec lui. Donc moi, mon but ici, c'est de montrer en fait que c'est pas forcément ça le plus important dans l'éclosion d'une scène punk en Chine, à Pékin et à Wuhan. Tout d'abord, quand j'ai interviewé en fait toutes les personnes de la scène punk, elles m'ont dit que leur principale influence n'était ni Tsuetian, donc le rock pékinois des années 80, ni le punk américain apporté par les étudiants étrangers, mais d'autres groupes rock hongkongais, notamment Beyond. Donc, il y a un groupe rock très connu hongkongais sur lequel tous mes interlocuteurs m'ont pointé. Tout le monde m'a dit, voilà, nous, à notre époque, particulièrement ceux qui ne sont pas à Pékin, ceux qui sont à Wuhan, ceux qui sont dans d'autres villes de province, me disent, nous, à l'époque, on n'écoutait pas de Fuétienne, on n'écoutait pas le rock pékinois, ça n'arrivait pas chez nous. Nous, ce qui nous arrivait, c'était Beyond. Donc, c'était du rock hongkongais, qui est un peu du rock pop, de la pop rock. Et c'est ça, en fait, qui nous a socialisé à une autre manière de faire de la musique, et notamment au rock, qui est chanté en langue chinoise. Donc, par exemple, Beyond, les chansons de Beyond ne sont pas en mandarin, mais ils sont en cantonais, puisque ça vient de Hong Kong. Et en fait, ce qui n'était pas compris en fait par les personnes qui vivent au nord, donc soit à Wuhan ou à Pékin. Et en fait, c'est une langue qui n'est pas la même, mais pourtant, en fait, ils vont s'emparer, s'approprier ces musiques-là qui sont en cantonais pour créer leurs propres chansons à eux. Donc, Beyond, c'est une des grandes influences des années 90. Beyond et tous les chanteurs hongkongais des années 90 qui arrivent en fait à ce moment-là aussi à partir des années 90 en 92 en fait on a la poursuite des réformes économiques après la répression du mouvement Tiananmen et en fait à partir de ce moment-là on a de plus en plus de cassettes pirates de Hong Kong qui arrivent. Il n'y a pas que les cassettes pirates de Hong Kong qui arrivent, il y a aussi une autre forme d'objets qui arrivent dans les années 90, à partir de 93 très exactement, qui s'appellent les CD DACO. Donc qu'est-ce que c'est un CD DACO? Donc DACO, ça veut dire cassette. Un CD DACO, en fait, ça vient de l'étranger, des pays occidentaux. Donc en fait, à cette époque-là, au milieu des années 90, l'Occident produit trop de CD, trop de cassettes qui sont invendues. Ils ne savent pas quoi faire de tous ces déchets, donc ils prennent tous ces CD, toutes ces cassettes, ils les mettent dans des cargos, ils les envoient en Chine pour être recyclés. Ils se disent, voilà, c'est du plastique, donc ça peut être recyclé, on va les envoyer en Chine et ça sera leur problème et pas le nôtre. Donc, ils arrivent en majorité dans le sud de la Chine, donc vers Hong Kong et Shantou, donc qui est une ville du bord de mer cantonais. Ils arrivent là et en fait, au lieu d'être recyclés, au lieu d'être détruits, ils vont se retrouver dans le marché noir de toutes les villes de Chine. Donc, il va y avoir une arrivée massive de tous ces CD, de toutes ces cassettes dans toutes les villes de Chine à des prix complètement bon marché en fait. On trouvait en fait des CD à très très peu cher. Et donc en fait la particularité de ces CD et de ces cassettes, c'est qu'ils étaient cassés sur le bout pour pas qu'on puisse les revendre justement. Et en fait ce dont ils n'avaient pas pensé en fait, c'est que un CD ça se lit du centre vers la périphérie. Quand vous avez le laser qui lit le CD, ça se lit en fait de son centre, ici, jusqu'à la périphérie. En fait, quand on casse un bout d'un CD à sa périphérie, en fait, on ne rend inécoutable que la dernière chanson, ou les dernières chansons. Donc, en gros, ce CD, il pouvait encore être lu. Donc, il se retrouve en fait vendu à travers toute la Chine. Et donc, on a en fait l'arrivée massive de chanteurs qui sont pas que des chanteurs punk. Hein, on a des chanteurs rock, on a de la pop. Céline Dion fait un carton à cette époque-là à travers ses CD et cassettes d'Aco. On a aussi Madonna. Madonna, 300 000. On estime à 300 000 le nombre de CD. Donc, c'est pas des CD pirates parce que c'est des vrais CD, mais des CD d'Aco qui se sont vendus à travers la Chine quand une cargaison de Madonna est arrivée. Donc, en fait, vous avez aussi, si vous voulez, cette influence-là, qui est une influence effectivement de l'étranger, mais qui est une influence qui arrive de manière illégale. Et donc ça va être aussi quelque chose de très important pour la formation d'une nouvelle scène musicale, qu'elle soit punk, rock ou grunge, en fait, à cette époque-là. Vous avez en fait toutes ces influences qui arrivent et tous ces sons qui se mêlent en fait à cette époque. Ce qui m'amène à autre chose qui est créé en fait par l'arrivée de ces CD, c'est en fait les critiques musicaux rock arrivent à ce moment-là aussi pour essayer d'expliquer tous ces CD et toutes ces cassettes qui arrivent en même temps sur le marché noir chinois. Donc on a en fait des critiques musicaux qui introduisent ces genres musicaux au plus grand nombre. On a de nombreux journaux qui sont consacrés à la musique ou qui ont des colonnes qui sont consacrées à la musique contemporaine qui paraissent dans les années 90. Le premier, c'est Conversation on Rock and Roll, donc Do It Roy Orgun, ce que vous voyez, ce qui est en blanc, Conversation on Rock and Roll, donc qui est une des premières colonnes publié dans un journal de musique qui s'appelle The World of Sound of Music, donc qui est publié par deux critiques, Wang Xiaofeng et Zhang Lei, qui vont en fait introduire différents genres musicaux au lecteur chinois. Donc ces différents genres musicaux, ils peuvent les retrouver en fait sur le marché noir des Daco, et donc ils vont expliquer historiquement ce qui s'est passé pour que ces genres apparaissent en Occident. Donc on a ça, on a également d'autres critiques qui vont en fait écrire ou créer des fanzines. Donc vous avez Subgem qui est un des premiers fanzines de Lanzhou, donc dans une région un peu au nord, où en fait Yan Tun, donc qui est son auteur, présente à la fois l'histoire du mouvement rock, mais aussi les différents groupes underground qui existent en Chine hors de Pékin. Donc il va s'attarder sur les groupes hors de Pékin, ce qui est aussi intéressant pour voir la diversité en fait des groupes qui apparaissent alors. Punk Shodai, donc Punk Generation, qui est aussi créé par Yan Tun, qui travaille aussi sur voilà tout ce qui est de l'ordre, pas que du punk en fait, du hardcore, du grindcore, et voilà, il va essayer d'expliquer en fait tous ces genres musicaux à cette époque-là. Et ce qui m'amène à Kurt Cobain. Pourquoi Kurt Cobain est important selon moi, c'est qu'à cette époque-là, donc les critiques musicaux vont aussi beaucoup se focaliser sur Nirvana. Donc Nirvana aussi devient un groupe très connu et très apprécié de tous les milieux musicaux indépendants de l'époque. Et on va avoir par exemple Hao Feng, donc qui est un des éditeurs de ces différents journaux, qui va écrire un livre sur Nirvana qui s'appelle The Glorious Nirvana, The Life of Kurt Cobain, qui est centré en fait sur la vie de Kurt Cobain. Donc il l'écrit en 95, en 96, deux ans après la mort de Kurt Cobain, et ce livre en fait va être un best-seller incroyable en Chine. Donc que ce soit le livre officiel, mais aussi ces différentes versions pirates, donc qui vont se vendre en même temps que les Daco, donc ces CD cassés. On va pouvoir trouver en fait les versions pirates de la biographie de Kurt Cobain. Et donc ça va être quelque chose qui va être aussi important pour la création en fait d'une scène musicale punk et underground. Donc à partir en fait de la mort de Kurt Cobain, on va voir différents groupes faire des reprises de Kurt Cobain, faire des concerts en l'honneur de Nirvana et de Kurt Cobain, parce que ça va être un traumatisme en fait, la mort de Kurt Cobain, parce qu'on découvre à ce moment-là les CD de Nirvana, on a des critiques musicaux qui parlent en fait de Nirvana, et cette mort de Kurt Cobain, ce suicide, va être interprétée comme quelque chose de très quelque chose qui va toucher profondément en fait la jeunesse chinoise, parce qu'elle se reconnaît en fait dans les musiques de Kurt Cobain et dans ses chansons, dans les thèmes qu'il aborde, dans cette espèce de dépression et de mal-être, en fait, qui va beaucoup en fait être intériorisé en fait par la scène musicale underground en Chine à l'époque. Et ce qui est intéressant, qu'on a noté aussi, c'est que donc pour faire le lien en fait entre les Daco de Nirvana et la mort de Kurt Cobain, c'est que au moment de la mort de Kurt Cobain, le prix des CD de Nirvana vendus sur le marché noir passe de 5 yuans à 80 yuans le CD. Donc le suicide de Kurt Cobain va rendre le prix des CD sur le marché noir de Kurt Cobain assez incroyable. Donc en fait, il y a Peng Lei qui a fait sa thèse sur le rock chinois dans les années 90, qui a interviewé un vendeur de CD de CD du marché noir de l'époque, et il disait que en fait il avait perdu l'équivalent du prix d'une maison en jetant une cargaison de CD de Nirvana et qu'il n'avait pas revendu en fait. Donc en fait, voilà, il savait pas ce que c'était Nirvana parce qu'en fait c'était juste quelqu'un qui vivait en fait dans le sud de la Chine et qui recevait en fait tous ces CD et ces cassettes qui venaient de l'étranger et qui les revendait ensuite à des revendeurs dans certaines villes. Et en fait, il savait pas du tout qui était Nirvana. Et en fait, il a jeté toute une cargaison de Nirvana. Il aurait pu avec ça s'acheter en fait une maison. Donc ça vous montre aussi comment ce marché noir fonctionnait. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit, ah bah je vais employer des gens qui connaissent Nirvana, qui connaissent le rock, pour venir et choisir les meilleurs CD et pouvoir les revendre et pas en fait jeter des choses qui vaut très cher. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est assez parlant sur l'influence de Nirvana à l'époque. Donc je pense que j'ai parlé pas mal de temps, donc je vais conclure. Ouais. Je vais conclure en disant que voilà, sur l'invention d'une scène punk en Chine, c'est quelque chose de complexe et de multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le résumer, le subsumer à un seul facteur ou à une seule personne. C'est l'invention d'un genre musical. Ça participe de plusieurs facteurs, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient culturels ou qu'ils soient même individuels. Le contexte politique et social des années 90 a permis au punk de se mettre en place en Chine, que ce soit à Pékin ou Wuhan. Et de la même manière que la répression du mouvement démocratique de Tiananmen et la poursuite des réformes économiques en 92 a permis le changement culturel des années 90 avec l'arrivée de ces CD, avec l'arrivée des CD pirates pop de Hong Kong et de Taïwan, l'arrivée de ces CD daco sur le marché noir chinois et finalement l'appropriation par la jeunesse chinoise de ces musiques. Et notamment à travers la création de fanzines et de magazines dédiés au rock et au punk, qui ont permis, en fait, qui ont donné les moyens, à une scène de pouvoir se développer. Alors après, il y a toute une question d'espace, mais c'est pas ce qui nous intéresse, aujourd'hui. Mais au moins, en fait, le contexte social, de ces années-là a permis à une scène punk, de se développer. Et en fait, toutes ces inspirations, toutes ces influences qui forment une espèce de patchwork, de référence, nous permettent en fait d'aller au-delà d'une dichotomie un peu trop simple entre un underground qui serait authentique et un mainstream qui serait que commercial, et nous permet aussi d'accepter la nature poreuse des frontières entre les deux, et qu'en fait on peut s'approprier des musiques pop à des fins underground. Merci.
Merci Nathanaël pour cette belle communication. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour discuter avec toi sur ces aspects qui ont été évoqués à partir de questions, peut-être que vous avez dans la salle sur cette scène chinoise, la structuration de cette scène punk en Chine. Alors, première question de Monsieur Vomix.
Oui, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas. Au niveau des groupes, est-ce qu'ils avaient accès à du matériel audio pour jouer en live ou...
Oui, alors c'est une autre question, effectivement. Là, je me suis concentré sur les influences. Mais effectivement, qu'est-ce qui se passe aussi à cette époque? C'est que les groupes punk, qu'ils soient voilà, à Pékin ou à Wuhan, ils ont accès à un matériel audio. Comment ils ont accès à ce matériel audio? Alors, c'est quelque chose qui va nous amener très loin, mais c'est super intéressant. C'est que en fait, la scène punk pékinoise, elle avait accès à un matériel qui a été héritée de la scène rock des années 80, c'est-à-dire qui se produisait dans les mêmes bars que la scène rock, c'est-à-dire que la scène rock avait développé, en fait, avait mobilisé ses ressources dans les années 80 pour créer des bars, créer des labels. Et en fait, les punks, ils arrivent et en fait, ils vont se réapproprier en fait toutes ces ressources qui avaient été précédemment créées. Donc en fait, on va avoir des bars qui vont être investis par les punks et qui sont les mêmes bars où les rockers des années 80 se produisent. On va avoir des labels qui sont les mêmes labels qui ont produit les rockers des années 80, qui vont produire les punks pékinois des années 90. Donc en fait, à Pékin, ça fonctionne en fait sur une mobilisation de ressources qui existait déjà à travers le cercle du rock pékinois. À Wuhan, c'est très différent. Et en fait, mon hypothèse, c'est qu'à Wuhan, comment ils ont eu accès à ces ressources-là? C'est en fait à travers leur inscription dans la mafia locale, si vous voulez. Donc ce qu'on appelle les sociétés secrètes, qui sont pas vraiment de la mafia, mais qui est une espèce de monde un peu souterrain où voilà, c'est des gens qui vivent un peu d'expédients, qui sont dans des trafics divers. Et en fait, la scène punk de Wuhan, elle est intégrée à ce monde et qui est également le monde des karaokés. Donc parce que les karaokés, ça donne à des pratiques illégales à cette époque. Enfin, ça donne toujours à des pratiques illégales. Et en fait, ils vont pouvoir investir ces karaokés pour chanter, pour organiser des concerts, même s'ils se font virer. Ils vont les investir et en fait, ils vont réussir à mobiliser ces ressources-là qui viennent du monde un peu souterrain local. Donc en fait, c'est ces ressources-là qui vont être mobilisées par les punks de Wuhan et à travers également du vol de matériel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs dans d'autres scènes, mais à Wuhan c'est beaucoup plus présent. Voilà.
Est-ce que sur cette scène punk il y avait des codes vestimentaires qui identifiaient bien les punks en Chine?
Ah oui, tout à fait, on a une réappropriation des codes vestimentaires du punk anglais et américain. Donc en fait, à travers, donc comme je vous ai dit, en fait, il y a tous ces magazines, ces fanzines qui se créent et qui vont expliquer à la fois la musique, mais à la fois le style vestimentaire. Et donc, on va avoir une réappropriation aussi par les punks eux-mêmes de ce style-là. Donc à travers les blousons en cuir. Donc ça va être un peu compliqué à acheter souvent, hein, parce que c'est un peu cher, mais du coup il y a des copies aussi qui sont faites en Chine, et en fait on va avoir voilà, des jeunes punks, donc surtout à Pékin, qui vont adopter un style vestimentaire assez proche de ce qu'on peut voir en fait dans les photos à l'époque de punk anglais. Donc le problème, c'est pas un problème en fait, c'est ce qui va se passer, c'est que Pékin va être considéré comme un peu le lieu du punk, du style punk, c'est-à-dire que les individus vont beaucoup investir dans le style, notamment à travers les vêtements, à travers les coiffures et tout. Donc ils vont être aussi stigmatisés pour ça, c'est-à-dire on va dire c'est juste des punks qui adoptent le style, mais derrière il n'y a pas forcément un engagement politique, ce qui va être en fait la particularité du punk wuhanais. Donc le punk de Wuhan va être beaucoup plus engagé politiquement et peut-être un peu moins stylistiquement, hein, parce qu'ils ont beaucoup moins d'argent aussi que les punks pékinois, donc ils sont plus des enfants des classes moyennes, même si la classe moyenne n'existe pas vraiment. Ils ont des enfants de personnes qui sont dans des unités de travail, donc des parents qui sont soit... Souvent, on a des enfants de militaires, des enfants de médecins aussi, qui ne sont pas forcément des gens qui sont très riches, mais qui ont des accès privilégiés à certaines ressources. Voilà. Et donc, ce qui est très différent du punk de Wuhan. Donc voilà, on a aussi une appropriation des codes vestimentaires, et donc qui persiste encore aujourd'hui. Hein. On voit les codes vestimentaires et de coiffure, en fait, qui sont assez similaires à ce qu'on peut trouver autre part.
Juste une question, comment se définissent les paroles des groupes de punk chinois? Car en termes de paroles, ils doivent largement se censurer pour éviter des répercussions étatiques, ou alors est-ce qu'ils en ont un peu rien à faire? Parce que je sais par exemple qu'en URSS, les groupes devaient valider leurs paroles par le Politburo par exemple. Et est-ce que c'est la même situation en Chine ou...
Alors oui, alors différentes choses, c'est-à-dire que ils doivent effectivement passer la censure quand ils veulent éditer un album. Quand ils veulent éditer un album en Chine, souvent ils passent par Hong Kong ou Taïwan pour éditer leur album. Donc ces albums-là ne sont pas censurés. Par contre, quand ils doivent éditer leur album en Chine, ils doivent passer la censure. La censure se fait principalement sur les paroles écrites, pas sur ce qu'on entend. Donc en fait, ils changent les paroles écrites. Donc il peut y avoir des choses très différentes, c'est-à-dire que ça peut être des choses politiques, mais ça peut être des choses qui passent pas parce que c'est considéré comme pornographique. Par exemple, le mot « fuck » ne peut pas être imprimé. Donc en fait, ils vont changer le mot « fuck » en « funk ». Donc on a une chanson qui s'appelle « Funking Disco » au lieu d'être « fucking disco ». Donc des paroles qui sont un peu comme ça, qui vont être changées. Même en chinois, il y a des caractères qui vont être enlevés. Donc voilà, donc il y a une certaine forme d'autocensure dans les livrets, par exemple, mais beaucoup moins sur scène et dans les paroles des chansons qu'on écoute dans le CD. Donc on a beaucoup de groupes qui refusent de se censurer et qui pour ça, en fait, ne peuvent pas éditer leur album en Chine, mais vont le faire de manière complètement indépendante en distribuant en fait leur CD lors des concerts. Donc oui, sur les paroles, on a des paroles extrêmement poétiques. On a des groupes qui font des choses qui sont assez incroyables parce que dans aucun autre mouvement culturel, on ne verrait ça, c'est-à-dire des albums qui font directement référence aux manifestations de Tiananmen de 89. On a un album où il y a un tank qui écrase une personne sur la jaquette. Donc ça bien sûr, il n'a pas pu être vendu de manière officielle, mais on peut le trouver en fait quand on va à des concerts et tout ça. Donc voilà, donc il y a des manières de contourner la censure, il y a des manières de faire avec, il y a des manières aussi de s'autocensurer. Il y a des groupes qui s'autocensurent, il y en a qui refusent, et voilà. Donc c'est des arts de faire qui sont très différents et qui en fait sont spécifiques aux manières, aux institutions de la censure chinoise.
Bonsoir. Comme vous avez fait un travail remarquable et je vous en félicite. Je voudrais que nous projetions dans le futur et j'adorerais, ça, non pas dans un but lucratif, parce qu'en 44 ans, je n'ai jamais fait d'argent avec, mais j'aimerais bien envoyer mes productions du label Siamese Dog Records, qui était au départ du punk, en Chine. Et comment ce serait possible de pouvoir s'introduire en Chine, en fait.
Alors, pour l'introduction des musiques en Chine, donc en fait, il y a des labels, il y a des labels indépendants, des labels plus ou moins indépendants qui existent et qui ont introduit des groupes. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Aujourd'hui, de ces cinq dernières années, en fait, avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir et en fait le resserrement culturel en ce moment, je pense que c'est très très compliqué de pouvoir produire des choses en Chine, que ce soit ou de distribuer des œuvres étrangères en Chine. Déjà, les productions locales n'arrivent pas à être distribuées. Donc, je vais montrer un truc. Donc ça, c'est un album. De SMZB, donc il y a un groupe de Wuhan que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, regardez SMZB sur Internet, vous verrez des superbes chansons. Et donc, ça, c'est leur dernier album. Donc, comme vous voyez, c'est une statue de Mao qui est tombée. Ce CD, il ne peut pas être édité en Chine aujourd'hui. Avant, on aurait pu l'imprimer, pas le distribuer officiellement. Là, plus personne ne voulait imprimer cette pochette en Chine. Il a dû être imprimé à Taïwan, où je me trouve d'ailleurs. Donc du coup, c'est très différent. Du coup, j'ai beaucoup moins je peux moins vous dire l'état exact de ce qui se passe aujourd'hui dans la scène culturelle. Mais voilà, pour dire, aujourd'hui, c'est très compliqué. Je ne pourrais pas vous donner de conseils sur la manière dont on peut s'introduire sur le marché chinois. Je pense qu'on est face à quelque chose qui est inédit, en fait, en termes de répression culturelle. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que ça va être dans le futur, en fait. Je ne peux pas se projeter trop.
Manuel Roux.
Bonjour, merci pour la présentation. Je pense que ça nous intéresse tous et toutes, notamment, et là ça va plus être une remarque discussion si tu le permets, parce que pour clarifier des points, donc, parce qu'en fait Les résultats de Luc et Solveig, notamment sur l'histoire de comment est arrivé le punk en France, hein, notamment, ces résultats-là ne sont pas des acquis aujourd'hui. On voit bien qu'il y a encore des chercheurs, des sociologues qui, par exemple, il y en a certains qui parlent de proto-punk, tu vois, avant bien le fait que, ben, justement, c'est aussi une assignation extérieure, quoi. Donc on ne peut pas dire que les punks, dans leur authenticité, émergent par essence, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens sociologiquement, quoi. Mais bon, bref, ça, c'est un positionnement particulier. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous montres, parce que du coup, on a une scène qui émerge un peu après. Du coup, avec un déjà là, hein, c'est-à-dire une culture qui était occidentale, qui est déjà là, qui arrive. Et ton regard peut-être d'historien, socio-historien, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire là-dessus à quel moment on peut dire qu'une scène punk apparaît en Chine, en fait ? Est-ce que c'est une assignation extérieure ? Est-ce que c'est une auto-assignation des punks ? Enfin, comment tu le décrirais, ça, avec tes mots ? Merci beaucoup.
Mais merci beaucoup, c'est une question qui est fascinante. Et effectivement, c'est un problème. Quand j'ai essayé de reconstruire l'histoire du punk chinois, parce que du coup, moi, je suis arrivé sur le terrain chinois vers 2007. En fait, j'ai pas commencé ma thèse en 2007, mais je suis arrivé en Chine la première fois en 2007. Donc, c'était quelque chose qui avait déjà plus de 10 ans. Donc, en fait, le punk était déjà installé. Et donc, j'ai dû reconstruire cette histoire. Qui est quelque chose d'assez compliqué à reconstruire parce que en fait personne ne l'avait fait vraiment et on doit en fait interroger les gens et essayer de comprendre en fait comment ça s'est passé à cette époque-là à travers un travail d'archives et tout ça. Ce qui m'a paru intéressant, c'était la manière dont les gens se définissaient eux-mêmes. Donc en fait effectivement c'est les assignations ethniques de comment en fait on dit punk et comment on se dit punk. Donc au début c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est la mythologie qui est aujourd'hui donnée du punk chinois, c'est 96 le premier groupe qui s'appelle Under Baby à Pékin qui publie son premier titre qui s'appelle tous pareils, Doyen, en 96. Et on dit ça, c'est une sorte de doxa aujourd'hui. Moi, ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est que Under Baby n'était pas un groupe de punk. C'était, si vous voulez, en me référant à des analyses qui ont eu lieu en fait en Birmanie, en Indonésie en fait, plus en Indonésie, il y avait en fait la même chose en même temps en Indonésie, ce que Emma Bolch a appelé alternapunk. Donc c'était pas forcément des punks, mais une alternative qui était plutôt grunge et qui a permis en fait le développement du punk. Ce groupe-là en fait n'était pas forcément punk, il se définissait pas dans ces termes-là, mais ils ont permis en fait la connexion entre une scène rock et une scène punk qui émergeait alors. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est quand est-ce que les gens se sont dit punk, c'est quand en fait le terme punk en chinois a été stabilisé. Parce qu'en fait, on avait eu pendant des années des termes différents pour dire le mot punk, qui avait été utilisé par des critiques de rock, qui essayaient en fait d'expliquer les mouvements occidentaux, et ils essayaient en fait de donner des caractères chinois à ces mouvements-là, c'est-à-dire que rock, on a appelé ça Yaogun, ce qui veut dire très textuellement rock and roll. Et pour le punk, en fait, on a eu différentes graphies qui se sont succédées et qui ont parfois coexisté. Et en fait, le terme punk chinois, punk, a été stabilisé dans les années 98 avec en fait le premier collectif punk pékinois. Qui a utilisé ce terme-là dans ses affiches. Donc, en fait, on peut dater à peu près à la fin des années 90 la vraie naissance d'un punk chinois à travers cette définition, à travers l'imposition d'une graphie, qui n'est pas la même d'ailleurs à Taïwan. On n'utilise pas les mêmes caractères. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant et je pense que, voilà, je pense que la stabilisation du terme participe. À la création d'une identité à cette époque-là. Ouais.
Merci Nathanaël. Moi j'avais une question sur tu évoquais tout à l'heure le lien avec les États-Unis à travers Ordel, je crois. Est-ce qu'il y a eu des liens avec l'Europe et en particulier avec la France, quel qu'il soit, entre cette scène punk naissante ou des influences? Tu parlais du rôle de l'ambassade de France, mais ou sur des points très particuliers?
Oui. Alors oui, il y a des liens sur la France. Il y a eu des liens à Wuhan parce qu'il y a eu des étudiants étrangers français qui se sont installés à Wuhan dans ces années-là et qui ont participé au développement de la scène punk locale et qui ont joué dans les groupes locaux. Donc on a très individuellement des gens qui ont eu un rôle ou en tout cas qui se sont agrégés à la scène punk locale, que ce soit à Wuhan ou à Pékin. Est-ce qu'il y a eu des liens avec d'autres pays? Alors oui, plus particulièrement l'Allemagne. L'Allemagne a beaucoup fait en fait dans la distribution et à travers certains labels underground qui ont en fait édité des vinyles et des CD, des cassettes de groupes chinois, que ce soit des groupes pékinois et wuhanais. Et d'ailleurs, beaucoup de ces groupes-là ont tourné en Allemagne à la fin des années 90, au début des années 2000, en Allemagne et dans d'autres pays européens, parce qu'en fait, c'était plus facile pour eux d'aller en Europe qu'aux États-Unis pour tourner. Et d'autre part, une fois qu'on avait un visa européen, enfin un visa en Allemagne, on pouvait tourner dans d'autres pays européens. Donc c'était beaucoup plus facile pour eux en fait de faire plusieurs dates. Et en fait, voilà, ils sont allés tourner dans ces pays-là, en Allemagne plus particulièrement, en France aussi. Il y a eu quelques passages en France, mais je pense que le plus important, ça a été en Allemagne. Et donc les Allemands ont produit en fait des vinyles et des cassettes qui sont un peu compliquées à trouver. Une cassette produite en Allemagne de deux groupes de Wuhan, donc qui est assez compliqué à trouver, mais voilà, ça a été produit en Allemagne. Ouais. Donc, des contacts avec la France, c'est plus compliqué. Il y a eu plus de groupes en fait qui sont venus en France ces dernières années, avant le Covid bien sûr. Notamment Démérite Gauche qui est arrivé, je pense en 2016, ils ont fait une tournée en France qui a été pas mal appréciée. Il y a eu des liens.
Merci pour toutes ces précisions, vraiment c'était passionnant. Je crois qu'on peut réapplaudir Nathanaël, vraiment merci beaucoup.
Et on espère te voir l'année prochaine, et si c'est pas toi qui viens, c'est nous qui allons tous venir, voilà.